nous apprendre la phylogénie sur l'histoire d'une épidémie. En pleine pandémie de SARS-CoV-2, la question est brûlante, mais nous vous proposons une trêve, et c'est de la grande peste de Justinien et de l'épizootie de langue bleue dont nous parlerons aujourd'hui dans notre table ronde actualité. Au programme également le premier gros champ de bataille connu en Europe, à Tollens, en Allemagne. À partir de l'étude des restes humains découverts, les chercheurs ont établi que des femmes étaient présentes sur cette zone de guerre datant de l'âge de bronze. L'occasion de revenir à un sujet de plus en plus étudié, la place des femmes au premier temps de l'humanité. Et enfin, nous parlerons d'un drôle d'oiseau, ou plutôt d'un drôle d'oisin. C'est le nom de ce volatile qui ne cesse de nous interroger et qui nous permettra de remettre en question la notion problématique en sciences de l'évolution, la notion de chaînon manquant. Phylogénie d'une épidémie, femmes dans la bataille et chaînon manquant, c'est le programme plein d'interrogations de cette table ronde actualité. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour résoudre toutes ces énigmes, nous avons le plaisir de recevoir nos trois enquêtrices du jour, avec tout d'abord Cécile Lestienne, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour vous
êtes,
à tous.
Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Pour la Science. Avec nous également à distance, Jennifer Kerner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et créatrice de la chaîne YouTube Boneless Archéologie. Et enfin, une toute nouvelle venue à cette table, et nous en sommes ravis, Cécile Breton, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes.
Bienvenue, vous êtes rédactrice en chef de la revue Espèces. Avant de mener toutes ces enquêtes passionnantes, il est l'heure de scruter à la loupe l'actualité scientifique avec notre inspectrice d'Éric, à nous. Il s'agit bien sûr, et pardon pour la comparaison, de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes.
Et on commence ce journal avec la publication du rapport mondial sur les déchets nucléaires paru cette semaine. Un rapport plutôt inquiétant sur l'avenir de ces déchets.
Ouais, c'est le premier rapport mondial sur le sujet. Ce panorama international s'intéresse à la gestion, au stockage et au coût des déchets nucléaires. Il en sort que dans l'ensemble des pays, sur cette question, nous naviguons à vue. Si l'industrie nucléaire a 70 ans, aucun pays n'a trouvé de solution pour le stockage définitif de ces déchets, et notamment pour les plus dangereux. Parmi les déchets nucléaires, il y a ceux liés à l'exploitation, au démantèlement et au combustible usé. Ce sont ceux-là qui sont les plus dangereux, car les plus radioactifs. En tout, 60 000 tonnes de combustible usé sont entreposées en Europe. La France, le numéro 1 européen du nucléaire, est par conséquent le plus grand producteur de déchets. Mais nos capacités d'entreposage actuelles vont arriver à saturation. Et problème, pour ces déchets-là, personne ne dispose de sites de stockage géologique profond. Seule la Finlande se lance dans ce projet. De plus, le rapport souligne d'importants déficits de financement liés à la gestion de ces déchets.
En bref, une tribune dans Le Monde de ce matin dénonce le budget 2021 de la Sécurité sociale, trop faible pour financer les mesures annoncées lors du Ségur de la Santé.
Et le collectif Interhôpitaux dénonce de nouvelles économies faites en santé publique alors que nous sommes en pleine crise sanitaire. Le 29 octobre, l'Assemblée nationale a voté une première lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Alors selon cette tribune, les budgets sont insuffisants et ne couvrent ni les besoins, ni l'augmentation des charges fixes de nos hôpitaux. Il est aussi rappelé qu'entre 2008 et 2017, 10% des établissements ont disparu, que 15% des lits ont fermé, et tandis que la productivité hospitalière a augmenté, les investissements ont, eux, chuté. Les signataires ajoutent « Nous affrontons en ce moment la deuxième vague avec moins de moyens qu'en mars dernier. »
On poursuit ce journal avec une étude parue aujourd'hui dans la revue Astronomy and Astrophysics. Ça m'apprendra à vouloir parler anglais. La matière cachée de l'univers se trouverait dans les filaments cosmiques.
Et ces filaments galactiques qui structurent l'univers à grande échelle, on les appelle aussi la toile cosmique. Ce réseau complexe de nœuds connectés les uns aux autres et espacés de vide contiendrait la quasi-totalité de la matière baryonique, la matière ordinaire. Or, 40% de cette matière, qui n'est pas de la matière noire, donc 40%, est restée jusqu'à présent indétectable. Une équipe française a réanalysé des données vieilles de 20 ans, celles de Rosat, le télescope spatial allemand pour l'observation des rayons X, qui a observé 15 000 filaments cosmiques de grande taille. L'analyse statistique de ces données a révélé la présence de cette matière manquante. Ces baryons seraient en fait cachés dans la structure filamentaire de la toile cosmique sous forme de gaz chaud.
En bref, selon une étude parue aujourd'hui dans Science, l'actuelle production alimentaire mondiale pourrait nuire à nos efforts climatiques.
Et selon ces chercheurs américains, les émissions de gaz à effet de serre, qui sont produites par tout le système alimentaire mondial, pourraient empêcher d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, à savoir limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Même si nous réduisons toutes les autres sources d'émissions, même si nous supprimons les émissions de combustibles fossiles, la production alimentaire, à elle seule, pousserait un réchauffement au-dessus de 1,5 degré. Selon les auteurs, il faut radicalement changer notre production alimentaire et encourager une transition vers un régime végétarien.
Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, Natacha, nous avons parlé de la Covid-19 et de la présence d'anticorps neutralisants pendant au moins 5 mois, de l'ADN mitochondrial de Denisovien retrouvé au Tibet, du dernier décret de Donald Trump qui inquiète la communauté scientifique américaine, de la première détection de sursaut radio rapide dans notre propre galaxie, mais également dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref.
En cette saison, l'océan Arctique devrait normalement être recouvert de glace le long de la côte sibérienne. Or, cette année, la glace n'a toujours pas commencé à se former. Une conséquence directe du réchauffement climatique. Les températures locales sont de 5 degrés au-dessus des normales. Ce retard exceptionnel du gel aura aussi des effets graves sur la faune et la flore. Pour la première fois, un moteur électrique pour des petits satellites fonctionne à l'iode. Cette nouvelle technologie de système de propulsion spatiale électrique est moins coûteuse, mais aussi moins polluante. Un prototype a été mis en orbite hier par une équipe française. Et enfin, on ne comprenait pas comment certaines espèces d'araignées s'y prenaient pour chasser la nuit, à l'aveugle. Par exemple, les araignées à face d'ogre. Elles chassent la tête en bas et jettent un filet sur une proie où elles bondissent dans sa direction. Des chercheurs ont découvert que leurs pattes peuvent détecter le son. Leurs pattes sont sensibles à une large gamme de fréquences sonores.
Et comme chaque vendredi, on termine ce journal avec la rubrique des sciences improbables. Aujourd'hui, Natacha, vous me faites plaisir, vous parlez d'un de mes animaux préférés. Des chercheurs australiens se sont intéressés aux fesses de wombat.
Oui, ce marsupial est célèbre pour ses crottes cubiques qui l'empilent comme des briques. Et autre particularité de l'animal, son fessier. Il est constitué de 4 plaques de cartilage, de graisse, de peau et de fourrure. Et avec peu de terminaisons nerveuses, cette croupe est solide comme un roc. Alors elle est à la fois une arme de séduction, c'est-à-dire que lors de leur parade amoureuse, les wombats se mordent le derrière. Mais c'est aussi une véritable arme qui leur permet de boucher leur terrier pour empêcher les intrus d'y entrer. Et pour ceux qui oseraient y glisser la truffe, les wombats pourraient peut-être les écraser contre le toit du terrier avec leur croupe. C'est ce qui s'appelle avoir des fesses mortelles.
C'est vraiment le genre de nouvelle qui me réjouit. Merci beaucoup, Natacha. Et on se retrouve lundi. Alors, Cécile Lestienne, Jennifer Kerner, Cécile Breton, je vais vous demander une petite réaction, un petit tour de table pour commencer. Une réaction à un ou des sujets de ce journal qui vous ont interpellé. Cécile Lestienne, par exemple.
Je dirais ce qu'on se dit beaucoup en ce moment, mais qu'il faut peut-être pas perdre de vue, c'est-à-dire que la crise actuelle du Covid est une crise aiguë, évidemment, mais que, comme l'a montré ce journal, avec la question de la gestion des déchets nucléaires ou la question, effectivement, du réchauffement climatique, de la biodiversité, il faut pas perdre de vue qu'il faut aussi s'occuper des autres crises à plus long terme qui nous attendent.
Jennifer Kerner, une réaction à l'un des sujets de ce journal.
Moi, ce qui me passionne toujours, c'est cette brève que vous nous avez mentionnée au sujet d'un travaux d'astrophysiciens, c'est à quel point les recherches scientifiques, lorsqu'elles sont bien menées et bien documentées, peuvent être réellement réexploitées à l'aune des nouvelles découvertes et des nouvelles technologies. Donc, une recherche ancienne, elle est toujours pourvoyeuse de découvertes nouvelles grâce à des nouveaux chercheurs et des nouveaux angles de vue. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des beautés de la méthode scientifique, justement.
Un des nombreux points qu'on a évoqué hier dans une émission qu'on a consacrée à l'astronome Vera Rubin. Cécile Breton, une réaction à un des sujets de ce journal qui vous ont marqué?
Écoutez, moi ce qui m'a intéressé surtout c'était cette histoire d'araignée ogre, parce que la perception animale aujourd'hui c'est un champ de recherche qui commence à se développer énormément et on s'aperçoit notamment que il y a beaucoup d'arthropodes qui peuvent percevoir des vibrations à des degrés très fins. Donc là, c'est des sons. Il y a aussi des mammifères, d'ailleurs, puisque les éléphants peuvent, avec leurs pieds, percevoir, par exemple, des vibrations du sol. Mais c'est principalement, effectivement, les arthropodes, donc, par exemple, des scorpions, par exemple, qui arrivent à même localiser, avec leurs 8 pattes posées au sol, l'emplacement de leur proie, en tout cas, des petites vibrations que font leur proie. Et donc voilà, c'est tous les jours on découvre de nouvelles capacités qui sont liées, qui ont été produites par l'évolution. Et d'ailleurs, il y a beaucoup ça inspire beaucoup le biomimétisme. Oui. Il y a effectivement des camions, par exemple, qui ont été créés pour faire de la géolocalisation en envoyant des vibrations dans le sol qui sont inspirées de ces animaux.
Les animaux ne finissent pas de nous surprendre par leur talent, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec le sujet que vous nous avez choisi pour la table ronde d'actualité du jour.
France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp.
Et nous commençons ce tour de table de l'actualité scientifique avec vous, Cécile Lestienne, et un sujet véritablement passionnant qui est à la frontière entre l'enquête historique et la recherche scientifique. On va parler de phylogénie, de la peste de Justinien, mais aussi de l'épizootie de langue bleue. Alors avant d'évoquer ces deux virus, ces deux maladies, avant d'évoquer tout cela, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel peut-être sur ce qu'est la phylogénie et sur son utilité croissante dans le domaine de la recherche.
Oui, dans ce numéro de Pour la science, le biologiste Hervé Le Guyader, qui tient notre chronique de l'évolution, revient justement sur l'apport de la phylogénie moléculaire à ces questions. La phylogénie moléculaire, c'est l'étude des arbres de parenté des espèces par comparaison de leur génome. Voilà. Et c'est les génomes aujourd'hui des différentes espèces, y compris des microbes, est aujourd'hui évidemment beaucoup plus facilement analysable grâce au progrès du séquençage à haut débit qui permet de faire beaucoup d'études et aussi de progrès du numérique pour faire les comparaisons.
Oui, le séquençage à haut débit, qui est une technologie toute récente, qui a à peine une vingtaine d'années.
Absolument. On a mis des années pour séquencer le premier génome humain. Ça a coûté, dans mon souvenir, quelque chose comme $1 milliard. Et aujourd'hui, on fait ça tous les jours.
C'est très commun. Alors, on en arrive à notre sujet. On ne va pas parler, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de coronavirus. On ne va pas parler de phylogénie du coronavirus, même si c'est intéressant.
On va peut-être y arriver à la fin.
On y arrivera à la fin. Mais on va partir un petit peu de ce papier d'Hervé Le Guyader dans Pour la science et de ces travaux qui ont été menés sur la peste de Justinien. Alors, voilà, quel est le point de départ de cette étude-là, et puis pourquoi on a interrogé cette peste en particulier, qui est la première des trois grandes pestes?
Oui, comme on a beaucoup parlé de la peste ces derniers mois, hein, dans les différents médias, probablement en réaction à l'épidémie que nous vivons aujourd'hui, Et donc, juste pour rappel, les historiens, effectivement, disent qu'il y a à peu près trois grandes pandémies de peste. La peste de Justinien au VIe siècle dans notre ère, qui a duré pendant 2 siècles à peu près. La fameuse peste noire du Moyen-Âge, qui est en fait durée par poussées successives jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis une autre épidémie de peste au XIXe et XXe siècle, pratiquement jusqu'à nos jours, mais qui était plus contrôlé. Et c'est lors de cette dernière épidémie de peste que Alexandre Yersin, un pasteurien, a découvert à Hong Kong le bacille de la peste, qui s'appelle du coup Yersinia pestis en son honneur, et qu'il a ainsi mis fin à des siècles et des siècles de mystère, parce qu'on ne savait pas du tout d'où venait la peste avant ça, même s'il a fallu encore attendre quelques années, 98 dans mon souvenir, pour
1898.
Pour qu'un autre pasteurien, Paul-Louis Simon, découvre que ce bacille passait par la puce du rat.
Voilà. Alors, ce bacille-là.
Et les historiens se demandaient si les pestes précédentes étaient bien liées au même bacille. Parce qu'effectivement, c'est pas si facile que ça de le savoir. Évidemment, on a des témoignages, mais les médecins d'autrefois ne parlaient pas le langage des médecins d'aujourd'hui. Et donc, comment être sûr que la peste est bien une peste? Et on se posait notamment la question sur... il y avait de gros doutes sur la peste de Justinien.
C'est-à-dire que c'était une maladie qui, dans les récits historiques qui en étaient faits, était semblable à la peste, mais on n'avait aucune preuve, aucune trace biologique qui nous permettait à l'époque de savoir si, et de déterminer si c'était bien le même bacille de la peste qui était la cause de cette épidémie du VIe siècle.
Exactement, et si ce n'était pas une maladie un peu similaire, proche, mais pas liée à Yersinia pestis. Et depuis quelques années, donc, beaucoup d'équipes de chercheurs se sont penchées sur cette question, notamment des équipes allemandes et canadiennes. Voilà, donc je vais essayer de vous résumer leurs résultats. Ils se sont penchés sur les tombes, les cimetières qui datent de cette époque-là, en cherchant les tombes collectives. Parce que, pourquoi les tombes collectives? Parce que, comment vous allez retrouver le bacille de la peste dans un cimetière, sachant que, comme la peste est une maladie très brutale, elle ne laisse pas beaucoup de, elle ne laisse pas même de traces sur les squelettes, mais peut-être que Jennifer Kerner aura des choses à nous raconter là-dessus après. Et donc, l'idée était de chercher les tombes collectives parce qu'il y avait tellement de morts d'un seul coup dans ces épidémies. On raconte que pendant la peste de Justinien, lorsqu'elle est arrivée à Constantinople, il y avait peut-être 10 000 morts par jour, juste dans la ville. La peste elle-même a fait des millions et des millions de morts à une époque où, je le rappelle, la population mondiale totale était de l'ordre de 200 millions d'habitants.
Oui, là on parle vraiment d'un cataclysme quand même pour ce genre de
voilà. Et donc, quand il y avait beaucoup de morts d'un seul coup, l'idée était qu'effectivement on essayait d'enterrer tout le monde en même temps autant qu'on le pouvait. Voilà. Et donc, ils se sont penchés sur avec d'autres indices sur des tombes, notamment des tombes en Allemagne, et ils ont réussi à retrouver, grâce à toutes ces techniques de biologie moléculaire, des traces de Yersinia pestis. Donc c'est bien Yersinia pestis, voilà, qui est la cause qui est le bacille de la peste de Justinien. Et voilà, et en faisant d'autres études sur d'autres squelettes, enfin en retrouvant d'autres génomes, parce que c'était ça la question, et en le comparant au génome des pestes, des bacilles qui ont causé les dernières pestes et toutes celles qu'on a retrouvées, ils ont montré que la peste avait dû naître en Asie centrale, à peu près là où est le Kirghizistan aujourd'hui, voilà, et puis arriver en Europe, peut-être par l'Iran, mais plus probablement par l'Inde, puis par la mer Rouge.
Donc là, on a vraiment la preuve des deux prouesses qui ont été rendues possibles par la phylogénie. C'est non seulement on établit qu'il s'agit bien de Yersinia pestis, mais en plus on arrive à remonter à son origine géographique. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle toujours. Comment on arrive à déterminer l'origine géographique d'un virus qui a frappé des gens il y a plus de 10 siècles? Comment on arrive à déterminer cette origine géographique-là à partir de données génétiques?
C'est passé en comparant tous ces génomes-là. Il y a des programmes très bien calibrés aujourd'hui qui permettent de faire cet arbre de parenté et de retrouver et de déterminer comment était l'ancêtre le plus probable. Voilà. Et donc se dire qu'aujourd'hui, c'est probablement à cet endroit-là que le bacille était. On ne peut pas en être absolument sûr et certain, bien sûr, hein, mais très probablement là.
Des hypothèses.
Et ça concorde aussi avec les données historiques, évidemment, et puis peut-être que ça va éclairer de nouvelles recherches d'archéologie ou d'histoire sur le sujet.
Alors, la phylogénie a permis d'établir tout ça, mais elle a aussi permis d'établir que cette épidémie de peste et ce bacille-là se distinguaient des deux autres grandes pestes, quand même. Et ça nous a permis que la peste avait émergé plusieurs fois chez l'humain, c'est ça?
Probablement. Donc c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est bien le même bacille.
Oui.
Comme vous savez,
oui.
les microbes mutent, les virus mutent, les bactéries comme ce bacille mutent. Voilà. Donc on peut retrouver les différentes souches et voir que même si c'est la même chose, c'est des sous-familles, si vous voulez, des sous-groupes, voilà, de ces microbes. Et donc elle a probablement émergé plusieurs fois chez l'homme.
Donc là, ça nous permet de faire cette généalogie de la peste. On fait un petit bond dans le temps avec un autre virus un peu plus récent qui a posé d'autres problèmes, d'autres énigmes, qu'a pu résoudre la phylogénie. On parle maintenant de la maladie de la langue bleue. Qu'est-ce que c'est que cette maladie de la langue bleue?
Alors, la maladie de la langue bleue, c'est un joli nom. Ça ne touche pas l'homme. C'est une épizootie, comme disent les chercheurs. Ça touche le bétail, les ruminants, les moutons, les bovins aussi également. Et c'est un virus cette fois-ci, pas un bacille, qui est originaire d'Afrique. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, il a fait quelques incursions en Europe de façon sporadique. Et notamment, en 2006, il y a eu une grosse épizootie qui est née, qui est apparue, dans les Pays-Bas, et puis qui a envahi une bonne partie de l'Europe. Voilà, et c'était un nouveau variant du virus, puisqu'on parlait de variant tout à l'heure, que les chercheurs appelaient BTV8.
Voilà. Un variant.
Et grâce à grande lutte vétérinaire, on a réussi à éradiquer totalement cette maladie d'Europe. Et en 2010, si mon souvenir est bon, et en 2015, tout d'un coup, il y a eu une résurgence dans l'Allier, en France. Voilà, et qui peu à peu s'est propagée dans les pays environnants. Et donc, on s'est demandé pourquoi tout d'un coup cette résurgence. Donc, il y avait une hypothèse qui était que, en fait, le virus aurait continué à circuler à bas bruit, voilà. Même si c'est une maladie à déclaration obligatoire, peut-être qu'elle avait traîné, qu'elle n'avait pas toujours été déclarée. Et donc, on ne savait pas trop comment ça pouvait se passer, jusqu'à ce que, justement, une nouvelle étude sorte, voilà, qui a comparé, qui a fait justement la phylogénie des 164 génomes de souches différentes de ce BTV8, voilà, et l'analyse a bien vu qu'il y avait deux clans, mais ce qui était vraiment très étonnant, c'est qu'on avait l'impression que le virus n'avait absolument pas évolué entre 2010 et 2015.
Ce qui est, pour un virus, très très rare. Un virus mute toujours.
Ou alors, il fallait se dire que le virus avait été congelé, puis décongelé. Mais c'était pas... Et figurez-vous que c'est effectivement très probablement ce qui s'est passé. Ce n'est pas un psychopathe qui a fait ça pour rendre fous les éleveurs d'Europe. Non, il est possible que le virus soit passé par la semence de taureaux congelés qu'on utilise pour les inséminations artificielles et que ce soit ainsi que l'épidémie est reprise.
Merci, la super phylogénie. Mais ce n'est pas tout. On peut peut-être espérer que la phylogénie nous en apprenne plus sur bien d'autres épidémies, et notamment
oui, certaines. Évidemment, sur le SARS-CoV-2, oui. La phylogénie du SARS-CoV-2, on sait déjà des choses. Hein. Évidemment, on le sait presque depuis le début de l'épidémie. On sait que c'est un virus, que c'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est un virus animal, qu'il était chez les chauves-souris, qu'il a dû vivre chez les chauves-souris pendant quelques dizaines d'années après, et qu'il est passé à l'homme probablement récemment via un autre hôte intermédiaire. Et justement, on pense qu'en continuant les études, peut-être en retrouvant d'autres souches, on va pouvoir déterminer quand le virus est passé à l'homme et par quel hôte aussi il est arrivé chez nous.
Et il n'y a pas que le SARS-CoV-2 dans la vie, il y a aussi Ebola. Ça peut être aussi utile, les études en phylogénie sur ce type de virus.
Absolument. De toute façon, toutes ces études permettent de mieux suivre la progression des épidémies et aussi de regarder justement à quel point ils ont pu muter, pas muter. Ça donne, lié à d'autres études de biologie moléculaire, nous permettent, nous l'espérons, de mieux lutter contre ces épidémies.
Alors, toute notre émission sera avec un fil rouge un peu génétique. C'est le hasard de vos choix qui a voulu ça et c'est très bien comme ça. J'aimerais avoir une petite réaction, une petite ou une longue réaction, comme vous le souhaitez, Jennifer Kerner, à cette proposition que vient de nous faire Cécile Estienne sur cette importance de la phylogénie dans les études scientifiques, qu'elles aient trait à la biologie, à la médecine, à la santé ou bien à l'archéologie.
Ah, nous, on est très, très reconnaissants en tant qu'archéologues à nos amis qui font de la biologie moléculaire à large échelle, parce qu'il y a effectivement certaines maladies comme la peste ou d'ailleurs le paludisme aussi, qui sont des maladies pour nous ostéologiquement invisibles. C'est-à-dire qu'en regardant le squelette, on ne peut pas se douter. Quand on regarde le squelette dans son contexte, généralement, on comprend qu'il y a eu une crise, puisque effectivement, ce sont des corps que l'on retrouve dans ce qu'on appelle des sépultures de crise, quoi, avec un rite funéraire minimum, un empressement à l'enterrement pour éviter la propagation. Comme quoi, on connaissait déjà un peu les gestes barrières qu'on applique encore aujourd'hui.
Oui, ça a toujours été une tradition d'éloigner dans les sépultures les personnes qui avaient été frappées par ce genre de maladie. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter sur ces travaux-là, en tout cas qui concernent la peste et puis les épizooties de langue bleue?
On peut dire que pour partir sur un aspect un petit peu plus positif, en faisant preuve de résilience et de positivité, que même ces grandes épidémies nous ont conduit à de très jolis changements aussi parfois, comme par exemple les magnifiques danses macabres médiévales qui ont vraiment pris leur essor grâce à cette belle épidémie de peste du XIVe siècle. Donc disons que des choses belles vont forcément sortir de ce qu'on traverse en ce moment.
Halloween, c'était il y a une semaine, donc là vous restez à peu près dans le thème. Une réaction peut-être, Cécile Breton, à ce sujet, à ces travaux de recherche en phylogénie sur les épidémies du passé?
Oui, effectivement, comme le disait Jennifer, on a en archéologie assez peu d'accès aux pathologies anciennes. Je crois qu'il y a notamment la syphilis qui laisse des traces osseuses, mais bon, c'est des vieux souvenirs d'archéologie, donc je me souviens.
Jennifer Kerner, vous confirmez ça?
Oui, je confirme, la syphilis fait des très belles caries osseuses, comme on peut pas
dire.
L'ambiance est délicieuse.
Ouais, concernant les mutations, effectivement, j'ai vu là récemment, alors désolé de revenir au sujet du Covid, que c'est une des caractéristiques des zoonoses, c'est effectivement elles se transmettent de l'animal à l'homme, mais elles peuvent aller aussi en sens inverse. Et j'ai vu qu'au Danemark, là, ils avaient identifié dans un élevage de visons. Oui. Alors c'est quand même extraordinaire qu'on élève encore des visons pour faire la fourrure.
On en parlait hier dans le Journal des Sciences, d'ailleurs.
Ah voilà, ouais, excusez-moi, j'ai...
Non, mais vous pouvez rappeler, parce que tout le monde n'a pas forcément entendu le Journal des Sciences hier.
Voilà ce qui se passe, c'est que le virus va muter au sein d'une autre espèce, donc il retourne au monde animal, et ensuite il revient vers nous. Et je crois qu'il y avait déjà 12 personnes qui avaient été contaminées, enfin bref. Donc ça, c'est très inquiétant, parce qu'effectivement, notamment dans le cadre de la recherche d'un vaccin, où si le virus mute trop rapidement, on risque d'avoir des soucis pour trouver ce fameux vaccin. Enfin bon, si, concernant les virus, d'une manière générale, on a un article là, justement dans le numéro actuellement en kiosque, le 37.
De la revue Espèce, oui.
De la revue Espèce, tout à fait. On a essayé un peu de réhabiliter les virus, hein, c'est pas tout à fait évident. Jennifer en parlait des manifestations culturelles magnifiques qu'ils peuvent donner, mais il faut quand même savoir que les virus, parmi les à peu près presque 500 000 espèces qui sont recensées, il y en a... je crois que 130 qui sont délétères pour l'homme. Et aussi, au cours de l'évolution, ces virus qui nous ont toujours habités, hein, parce qu'ils sont vraiment nous, je crois qu'ils représentent à peu près 8% de notre ADN, proviennent de virus. Et ils ont eu aussi des effets bénéfiques, notamment assez étonnants. Sur le début de l'apparition des mammifères placentaires, par exemple, ce sont des gènes de virus, puisque vous savez que les virus transmettent leur ADN, hein, c'est leur méthode de transmission, donc c'est ce qu'on appelle des transferts horizontaux de gènes, d'espèce à espèce, hein, ce qui est assez rare. Et donc, tout ce qui est constitution, notamment du placenta, pendant la gestation, etc. Ce sont des gènes qui viennent, enfin en tout cas l'utilisation de gènes qui ont été transmis par des virus. Et il y a plusieurs exemples comme ça qui sont assez étonnants. Alors espèce, c'est quand même qu'on essaie de réhabiliter les virus, un peu la revue des cas désespérés. Mais disons, il y a quand même pas mal d'exemples, notamment aussi sur le mécanisme de recombination des recombinaison des neurones, qui permettent l'apprentissage. C'est aussi quelque chose qui a une origine virale et qui a été transmis vraiment là au tout début de l'apparition des mammifères, il y a pas, je crois, 450 millions d'années, voilà, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est tout l'aspect vraiment passionnant de cette permanente coévolution entre les virus et leurs hôtes, et comment l'hôte s'adapte à ce virus, et le virus mute, et le virus s'adapte à son hôte, et c'est une escalade finalement sans fin, une hélice sans fin.
Tout à fait, ouais.
Cécile Estienne, j'ai une toute dernière question assez candide, mais on parlait pas mal du pangolin au début de l'épidémie de coronavirus. Qu'est devenu le pangolin dans cette épidémie et pourquoi, où il se trouve dans cette histoire de transmission du virus à l'humain?
Alors, comme je vous l'ai dit, les phylogénies montrent que c'est un virus qui vient des chauves-souris. Mais il est probablement pas passé directement de la chauve-souris à l'homme. Enfin, peut-être, mais peut-être pas. Et probablement par un autre intermédiaire. Et le pangolin fait partie des suspects avec beaucoup de guillemets possibles. Voilà. Mais il a pu passer par un autre animal parce que le pangolin est, ne vit pas tout à fait dans le même environnement que la chauve-souris. Donc, ce n'est pas sûr. Peut-être un autre animal plus domestique qu'on pourrait trouver sur les marchés, si on en croit cette histoire, voire même passer encore autrement. Mais ça, il va falloir plus de, d'études pour le montrer. Et ce pourrait aussi qu'en fait, le virus ait circulé chez l'homme il y a déjà, depuis déjà quelques années. Voilà. Mais pour le savoir, et il faudrait qu'on retrouve justement de l'ADN de virus de personnes qui seraient mortes de pneumonie, là où l'épidémie a émergé, en Chine, voilà, ces dernières années, pour voir si par hasard il n'a pas déjà un petit peu circulé et tout d'un coup serait devenu peut-être plus virulent, d'où l'épidémie actuelle.
Voilà, l'enquête phylogénique continue donc. On poursuit juste après la pause notre tour de table des actualités scientifiques. Restez avec nous, le programme s'annonce guerrier. La scène musicale française, toujours à l'honneur dans la méthode scientifique sur France Culture, et vous écoutiez à l'instant Tout par Liane Curren. Nous poursuivons notre tour d'horizon de l'actualité scientifique et nous prenons désormais la route d'une mystérieuse zone de guerre avec vous, Jennifer Kerner. Vous nous emmenez en Allemagne, à l'âge de bronze, sur le terrain d'une très grosse bataille. On parle même, je crois, pour cette bataille dite de Tollens, de la première bataille de l'histoire sur le sol européen, c'est ça ?
Tout à fait. C'est le plus ancien champ de bataille connu qui a été daté par la méthode du carbone 14 aux alentours de 1300-1250 avant notre ère. Et on parle quand même d'effectifs assez vertigineux puisqu'on a déterré 1400 défunts. Donc selon les estimations des spécialistes en stratégie martiale préhistorique, on serait sur un effectif total de 4000 personnes engagées dans un conflit armé, ce qui est extraordinaire pour une période aussi ancienne. Donc c'est un site qui est donc dans le nord-est de l'Allemagne et qui est exceptionnel à bien des égards parce qu'il se situe sur la rive d'un fleuve qui, pour notre plus grand bonheur, a bougé au cours des années et qui est venu recouvrir avec son limon de tourbière tous les vestiges archéologiques qui sont du coup apparus dans un état de conservation absolument miraculeux. Donc nous avons toutes les armes et tous les bijoux de ces guerriers, de ces potentiels guerriers, on verra que c'est pas si simple. Donc on a retrouvé des pointes de flèches en silex, mais aussi en bronze, des haches, des fers de lance, donc vraiment des gens lourdement armés, et particulièrement armés d'armes redoutables qui étaient utilisées par les Amérindiens, qui sont des espèces de maillets en bois, avec un très long manche, jusqu'à 70 cm de manche, qui permet d'avoir une très longue allonge sur le champ de bataille et qui fait des dégâts absolument redoutables sur les crânes des malheureux ennemis.
Alors, par analogie, c'est un peu comme ces crânes qu'on utilise pour le croquet, par exemple, c'est ça?
Oui, ça ressemble un peu à un maillet de croquet ou de polo.
Voilà.
Ouais, tout à fait.
C'est donc, ils faisaient vraiment dans la dentelle, oui.
Oui, et à la fois, c'était quand même des gens avec un certain raffinement, puisque, comme je vous le disais, on a aussi trouvé des très beaux bijoux. Donc, manifestement, ils sont arrivés sur ce lieu en bijouté, avec des bagues en matériaux précieux, hein, en or, en étain, en bronze. On a même des parures de cheveux qui sont constituées de petits filaments en or ou en bronze doré, qui étaient enroulés, manifestement, autour de nattes ou de dreadlocks, pour orner les cheveux des personnes qui étaient sur ce champ de bataille. Donc c'est tout à fait étonnant de voir un instantané de vie. C'est un peu un petit Pompéi, mais un petit Pompéi de massacre, quoi.
Oui. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que la génétique était un petit peu le fil rouge de cette émission. Vous vous êtes attardé sur une étude qui est parue dans la revue Current Biology. Vous l'avez un peu décortiquée pour nous et elle s'intéresse, cette étude, à la génétique et plus précisément à un allèle qui permet de traquer la tolérance au lactose à l'âge adulte. Alors, pourquoi cet allèle a de l'importance et pourquoi on a essayé de trouver cet allèle-là dans ces ossements trouvés sur ce champ de bataille à Tolens?
Alors, eh bien, cette allèle, donc pour petit rappel, une allèle, c'est donc une modification génétique qui donc de son petit nom, c'est RS498-82-35A. Eh bien, elle est responsable. Je me suis beaucoup entraînée. Elle est responsable en fait de la tolérance au lactose à l'âge adulte uniquement chez les populations européennes. C'est important de le préciser. Cette tolérance donc au lactose, elle nous paraît normale ici en Europe de l'Ouest parce que la majorité de nos concitoyens sont tolérants au lactose. Mais il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement disparate sur la planète. Si on regarde la diffusion de cette tolérance, on est bien doté dans les latitudes plutôt nordiques, alors que nos amis africains ou mélanésiens sont pratiquement tous intolérants au lactose à l'âge adulte. Donc il y a eu une modification génétique qui s'est faite en réaction potentiellement à un environnement un peu plus hostile, un peu plus nordique, où on n'a pas beaucoup d'ensoleillement, où du coup on a du mal à synthétiser la vitamine D grâce au soleil, et où il faut potentiellement trouver une autre source de vitamine D, qui est potentiellement la consommation donc du lait frais, puisque le lait frais nous fournit beaucoup de vitamine D. Et donc la grande question des chercheurs, c'est de savoir où est née cette variation exactement. Bon, bah, probablement chez les populations néolithiques anatoliennes, mais ensuite, comment s'est-elle véritablement diffusée en Europe? Ça, c'était la question de la recherche de l'équipe de chercheurs dirigée par Janssen. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le site de Tolens pour poser cette question? Bien, tout simplement parce que les dents sont très bien préservées et puis qu'ils ont une énorme quantité de dents, hein, puisque je vous disais, on a 1400 macabées.
Oui,
donc du coup, ça fait beaucoup de chicots à étudier, ça donne beaucoup de possibilités.
Alors, et autre surprise, sur ces 1400 macabées, comme vous le dites, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait aussi des femmes.
Il y avait aussi des femmes. Et nous avions du coup un très grand espoir, je dois l'avouer, de pouvoir discuter la place de la femme au sein d'un événement guerrier. Puisqu'on sait que la femme obtient manifestement plus tard, à l'âge du fer, c'est-à-dire aux alentours de 800 avant notre ère, elle obtient une certaine autorité martiale. En tout cas, elle est en lien symbolique avec le militaire, puisqu'on enterre certaines femmes avec des chars de guerre, avec des chevaux, avec des armes, avec des boucliers. Donc la femme avait peut-être une place sur le champ de bataille, peut-être pas dans la mêlée, mais au moins dans l'établissement d'une certaine stratégie. Et donc, on avait envie de découvrir la racine de cette nature guerrière de la femme. Et on s'est dit, bah, peut-être que c'est à Tolence, finalement. Mm-hmm. Effectivement, on a des femmes sur le champ de bataille. Et malheureusement, eh bien, l'étude de Janssen, elle nous fait un peu les montagnes russes émotionnelles, puisqu'il semblerait que le scénario du champ de bataille soit un peu en train d'être mis à mal par ses recherches, puisqu'il a découvert que la grande majorité des personnes qui sont décédées lors de cette attaque provenaient d'origines géographiques extrêmement variées, extrêmement diverses. Il a été chercher ça, bien évidemment, dans la génétique. Et surtout qu'il y avait très peu de liens de parenté entre ces personnes. Ça donne l'impression, non pas d'une bataille entre deux clans adverses locaux, mais plutôt, bien tout simplement, d'une
embuscade.
D'un guet-apens, d'une embuscade, voilà tout à fait, qui aurait été tendue à une caravane de marchands provenant de terres lointaines avec, du coup, tout son arsenal de bijoux et d'éléments d'artisanat de luxe qu'on a retrouvé sur les sites archéologiques.
Donc cette bataille de Tolence ne nous renseignera pas. Malheureusement, une nouvelle fois, pas plus sur la place des femmes à cette époque-là, mais bon, on parle là de l'âge de bronze, hein, donc on se situe dans la proto-histoire et même, on pourrait dire, déjà aux prémices de l'histoire. Mais à partir de cet exemple, Jennifer Kerner, ce qui est intéressant, c'est que vous avez souhaité élargir à une question qui est de plus en plus débattue, c'est la place des femmes dans la préhistoire, avec deux ouvrages qui ont retenu votre attention, je crois, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est absolument dans l'actualité du moment de discuter de la place de la femme pour savoir à partir de quand on est passé d'une collaboration complémentaire à parfois quelques frictions établies par un ordre social, sans vouloir lasser les grands mots, potentiellement patriarcal. Mmh. Et il y a deux auteurs qui se sont penchés avec succès sur la question. C'est Pascal Pic qui parle d'évolution génétique justement, hein, et d'évolution humaine, avec son ouvrage « Et l'évolution créa la femme », et qui nous montre dans cet ouvrage que la violence envers la femme n'est pas quelque chose de très répandu chez le grand singe. Hein. C'est quelque chose qui arrive relativement tardivement dans l'évolution et que nos consoeurs et confrères bonobos ne connaissent pas, par exemple. Donc il remet une perspective très intéressante sur la violence faite aux femelles dans l'ordre des primates. Et puis, il y a ce livre de Marilyn Patoumatis qui est absolument exceptionnel. Elle a fait un immense travail de recontextualisation sur l'image de la femme préhistorique. Mmh. Comment avons-nous eu cette image de la femme qui, loin d'être une guerrière, justement, est plutôt tirée par les cheveux dans le fond de la grotte et réduite à des activités familiales peu valorisées. Et elle met en avant dans son excellent ouvrage qui sort chez Alary Édition.
L'homme préhistorique est aussi une femme, le titre.
Tout à fait. Ouais. Très joli titre. Et donc, elle met en valeur que c'est bien évidemment une construction des scientifiques du 19e qui ont fait la science préhistorique, hein, qui l'ont établie et qui ont tout simplement, et malheureusement, c'est bien humain, transposé les valeurs de leur société dans laquelle ils vivaient aux sociétés préhistoriques qu'ils étudiaient. Donc, il est très important d'élargir notre regard, notre horizon. Et puis, si les femmes à Tolence n'étaient peut-être pas des guerrières et simplement des marchandes malheureuses, ça replace tout de même la femme dans une certaine mobilité préhistorique. Mmh. C'est-à-dire que la femme préhistorique n'est pas la femme des années 1950 qui reste au foyer. Ça peut aussi être la femme qui fait du commerce, qui vit des aventures et qui traverse toute l'Europe avec des produits de luxe pour faire du commerce.
C'est très intéressant parce que ça nous amène aussi à faire de l'histoire des sciences. La préhistoire est une discipline très jeune qui date du 19e siècle, qui est née dans un contexte politique, intellectuel très particulier où on justifiait pas mal d'inégalités par la science, et puis on essayait de plaquer en fait finalement ces pratiques contemporaines du 19e siècle sur la préhistoire, et c'est un peu l'histoire de toutes les sciences se pratiquent dans un contexte politique et social et sont le reflet finalement de ces temps dans lesquels elles se font. Ça a bien changé, Marie-Hélène Patou-Matis en est un bon exemple, elle a travaillé d'abord sur Néandertal, puis sur les femmes, ce sont des réhabilitations qui sont nécessaires dans ces disciplines.
Ah oui, tout à fait. Nous sommes dans un combat permanent de réhabilitation de l'image de l'homme préhistorique, mais on ne peut pas en vouloir à nos contemporains qui ont été bercés par des films comme ceux de Keaton, où des femmes en bikini se promènent à l'air glaciaire avec un bikini en peau de bête. Bien sûr, il faut revoir toutes ces images-là, et je pense que la culture populaire a malheureusement pas mal joué le jeu des premiers préhistorien, et c'est tout un monde à déconstruire, et on s'y attelle très sérieusement à partir de maintenant.
Une réaction à ces études, à ces travaux, à ces réflexions sur l'évolution de la discipline préhistorique, Cécile Lestienne?
Oui, c'est vraiment effectivement tout un champ à défricher. On pourrait ajouter un autre champ connexe, le livre de Stéphane Rostin sur l'Amazonie, l'archéologie au féminin, pour montrer l'importance qu'ont eu les femmes archéologues.
On le recevait il y a peu à son micro.
Voilà, donc tout ça montre qu'effectivement les études de ce côté-là sont voilà, fructueuses, et ça va dans le sens général de notre société aujourd'hui quand même, qui remet en cause effectivement ce modèle patriarcal qui était en place quand même depuis très longtemps. Et voilà, ça fait aussi partie des nouvelles, il n'y a pas que des crises en ce moment. Voilà, ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes à suivre. Et voilà, et puis pour revenir peut-être sur le gène de tolérance au lactose là dans le en Occident.
Tolérance, oui.
Voilà, assez intéressant, parce qu'effectivement, chez nous, beaucoup plus de gens sont tolérants au lactose, c'est-à-dire que les adultes sont capables de digérer le lait et pas uniquement le manger du fromage, par exemple, voilà, mais du lait frais. Voilà. Mais il semble que dans d'autres sociétés, plus en Asie, ou qui sont moins génétiquement prédisposées à tolérer le lait frais, le tolèrent quand même, mais là, c'est grâce probablement à leur microbiote. Puisque pour revenir peut-être sur les virus et les bactéries, etc., qui sont aussi nos amis, comme vous le savez, voilà, et le microbiote intestinal pourrait jouer ce genre de rôle.
Et pour toutes les questions qui concernent la place des femmes dans la préhistoire, je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à votre vidéo, Jennifer Kerner, parue en février sur le féminisme et le mariage au paléolithique. On va partager le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Et au passage, mon petit doigt que me dit que bientôt sur France Culture, vous pourrez écouter une masterclass avec Marie-Hélène Patou-Matis, enregistrée il y a peu par Natacha Triou. On vous tiendra évidemment au courant de la date de diffusion.
France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp.
Et on termine cette table ronde actualité avec un troisième sujet passionnant, décidément on vous gâte avec vous, Cécile Breton. Vous souhaitiez nous parler aujourd'hui d'une notion problématique en sciences de l'évolution, la notion de chaînon manquant. Alors avant de prendre à bras-le-corps cette question, on peut peut-être partir des exemples d'animaux dont on parle improprement, comme des chaînons manquants, il y en a plusieurs, c'est ça. On peut peut-être commencer par les plus célèbres, le sélacanthe, l'ornithorynque, et puis on parlera ensuite de l'oisin. Alors pourquoi le sélacanthe, ce poisson et l'ornithorynque, ce mammifère, sont-ils considérés à tort comme des chaînons manquants?
Alors oui, le sélacanthe, effectivement, qui a été découvert alors qu'on pensait que cette forme animale n'existait plus, on la connaissait sous des formes fossiles. Hein. Il est vraiment symptomatique de cette notion de chaînon manquant, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui réunissent des caractéristiques qui sont propres à deux grands groupes qui sont séparés assez longtemps auparavant. Par exemple, les mammifères et les reptiles, dans le cadre du sélacanthe, effectivement, ce sont plutôt les poissons et les animaux terrestres. Mmh. Alors, on a vu dans le sélacanthe, en fait, vous savez, le petit poisson qui sort de l'eau quand on...
Oui, et puis qui d'un coup a des pattes qui lui poussent et voilà.
Voilà, donc effectivement, il a des protopattes, en fait. Voilà, c'est comme si on voyait un peu l'évolution en direct. Il a des poumons aussi qui sont un peu particuliers, mais
ils sont remplis de gras, je crois.
Voilà, c'est ça, ouais. Alors, ce n'est pas, enfin bon, je peux développer sur le sélacanthe, mais c'est pas un chaînon manquant puisque toutes les espèces évoluent. Voilà, c'est en fait le propos. Donc il n'y a aucune espèce qui n'a pas évolué. C'est aussi c'est la d'idées reçues, enfin l'expression qu'on utilise souvent de fossiles vivants, qui n'a pas vraiment de sens, puisque un fossile ne peut pas être vivant, tout s'est diversifié avec le temps. Alors effectivement, il y a des espèces qui conservent des caractéristiques ancestrales. Alors, en général, les scientifiques parlent plus de formes panchroniques. Voilà, c'est moins joli et c'est plus difficile à expliquer, mais je pense qu'il faut utiliser des termes plus plus clair, voilà.
Dans ces autres espèces, donc, qu'on présente souvent à tort et toujours à tort comme des chaînons manquants, où il y a l'ornithorynque, qui est un mammifère qui a des poils, qui produit du lait, mais qui pond des œufs. Mais on va pas trop s'attarder sur ce merveilleux et très mignon ornithorynque. On va parler d'un autre exemple que vous souhaitiez nous présenter, qui est méconnu du grand public, qui s'appelle l'oisin. C'est un oiseau assez beau. On va vous poster une photo sur le fil Twitter de l'émission. Qu'est-ce qui fait de l'oisin, d'abord, un oiseau aussi exceptionnel?
Alors, c'est Guillaume Lecointre hein, qui parle de cet oiseau, justement, pour illustrer cette mésusage du terme chaînon manquant. Alors, cet oiseau, il est assez particulier, effectivement, par son aspect. Si vous verrez les photos, il a un plumage un peu rouquin, il a un œil rouge qui est bordé de bleu.
Une crête de punk.
Et voilà, la crête de punk, j'allais le dire. Tout à fait, il est assez punk. Et il a une morphologie, c'est un oiseau qui est assez grand, hein, quand même, qui va jusqu'à 70 cm de long. Il a un long cou, une petite tête, etc. Bon, après, vous savez que les oiseaux, c'est parmi les groupes anciens et donc extrêmement diversifiés. Donc, des oiseaux bizarres, il y en a d'autres. Ouais. C'est surtout, il a une particularité assez extraordinaire, c'est que c'est le seul oiseau qui se nourrit de feuilles. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui est capable, comme un ruminant, en fait, de dégrader la cellulose, ce qui est une prouesse que les mammifères, les oiseaux ne peuvent pas faire. Les mammifères, bien sûr, oui. Mais pas les oiseaux. Donc, pour ce faire, il a une espèce de jabot, il laisse fermenter les feuilles, hein, qui permettent donc de dégrader cette cellulose qui n'est pas digeste. Ça lui a valu deux surnoms qui sont pas terribles, hein, c'est celui de l'oiseau vache et celui de l'oiseau puant aussi.
Oui, forcément.
Je vous laisse comprendre pourquoi. Ouais. Son chant aussi est pas terrible, hein, il fait des espèces de grognements, ça a été comparé aussi à la respiration d'un asthmatique. Hein, donc voilà, bon, c'est pas...
Décidément, il a pas que des avantages.
Oui. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est une espèce extrêmement originale en fait, c'est la seule espèce de sa famille et de son ordre. Donc c'est une unique qui a divergé très tôt dans l'histoire des oiseaux. Il a très peu de caractères communs donc avec les autres espèces d'oiseaux. Mais c'est surtout en fait son poussin qui a attiré l'attention de certains scientifiques il y a longtemps, mais on l'a pas observé. On l'a observé plus précisément assez récemment. Donc, c'est une étude qui est parue dans Science Advances l'année dernière. Parce que cet oiseau, donc c'est un oiseau qui vit en Amérique du Sud, hein, je ne sais pas si on l'a dit, il vit dans les arbres au-dessus toujours de l'eau, oui. Dans les forêts inondées. Le poussin, il a la capacité, quand il est menacé, donc quand il est dans son nid, de plonger. C'est-à-dire qu'il se laisse tomber dans l'eau. Et ensuite, il est capable de nager pour
rejoindre
la rive et de grimper et de regrimper sur la. Comment il grimpe? Il a sur ses ailes des griffes, quelque chose qui va disparaître ensuite parce que les adultes ne les ont plus. Et donc cette étude récente, elle a étudié comment Annick Elaborachit, qui est professeure d'anatomie fonctionnelle au Muséum d'Histoire Naturelle. Comment bouger cet oiseau pour pouvoir nager et grimper. Et il avance exactement comme un quadrupède, c'est-à-dire qu'il passe la patte avant gauche, enfin, il avance la patte avant gauche et la patte arrière droite, comme le ferait un quadrupède, un mammifère.
Un lézard, oui.
Voilà, un lézard. Et comme nous, on le fait d'ailleurs encore quand on marche assez vite, hein, c'est-à-dire qu'on est bipède, effectivement, mais on a gardé cette espèce de désynchronisation entre les bras et les jambes.
Alors compte tenu de toutes ces qualités et toutes ces vertus quand même assez exceptionnelles, il est tentant de faire de cet oisin un chaînon manquant entre les reptiles et les oiseaux. C'est ça, en gros, je résume.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il a gardé des caractéristiques des reptiles, hein, donc, c'est-à-dire les doigts griffus. Il rappelle très vite, d'ailleurs, c'est marrant, parce que même son aspect rappelle les reconstitutions qu'on a fait de l'archéoptérix, hein, qui était le fameux, lui aussi, chaînon manquant entre les reptiles et les oiseaux, et qui a permis de comprendre que les oiseaux étaient des dinosaures théropodes, donc qui marchaient sur deux pattes. Donc il a l'archéoptérix a trois doigts avec des griffes, mais des oiseaux, il a la morphologie des pattes postérieures, etc. Et c'est déjà un oiseau, il a des plumes.
Pourquoi c'est problématique finalement ces questions lexicales quand on parle de biologie évolutive et d'évolution, de chaînons manquants, de stratégie évolutive, de force évolutive, de pression sélective? Pourquoi en fait finalement ces termes-là sont impropres et pourquoi ils collent à la peau de ces études-là?
En fait, parce que ça véhicule des idées qui sont complètement anti-évolutives, quoi. C'est-à-dire que déjà pour qu'il y ait un chaînon manquant, il faudrait qu'il y ait une chaîne. Elle n'est pas accessible, cette chaîne de généalogie d'un individu à l'autre, elle n'est pas accessible à la paléontologie. La phylogénie résonne en termes de population. Et en plus, ces groupes, hein, qu'on définit, donc mammifères, oiseaux, reptiles, etc., sont des groupes théoriques qui ne peuvent pas descendre des uns des autres. Hein. On ne peut pas dire que les oiseaux descendent des reptiles, mais les oiseaux, en fait, en quelque sorte, sont des reptiles,
oui.
Voilà, donc elle s'emboîte. Alors après, il y a plusieurs aspects, effectivement. Vous parliez de stratégie évolutive, etc. Ça, c'est autre chose, c'est du finalisme, c'est-à-dire que ça laisse penser que l'évolution a un but. Or, elle fonctionne de façon complètement liée au hasard, quoi.
Alors tout ça, c'est pour ces questions un petit peu de lexique autour de la biologie évolutive. Mais ce qui est aussi très très intéressant, c'est qu'on comprend par l'étude de ces êtres vivants-là, de ces animaux-là, que les animaux comme les humains, puisque les humains sont aussi des animaux, connaissent une évolution buissonnante.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a toujours, souvent d'ailleurs, quand on dit on a trouvé le chaînon manquant, dans la presse on dit on a trouvé le chaînon manquant, on s'aperçoit après très vite, non, c'est pas sur la lignée, c'est un cousin, parce qu'effectivement ce sont des branches qui partent, il y a énormément de branches qui divergent, et trouver vraiment l'ancêtre qui est sur la ligne d'évolution d'une forme fossile à un être vivant, c'est absolument impossible. On pourra jamais le vérifier, quoi. Donc voilà, c'est contre-intuitif, parce que effectivement ce qu'on voit à notre échelle, ce sont des générations, mais voilà, il faudrait que ce soit vraiment un chaînon manquant. Par exemple, vous êtes le chaînon manquant entre vos grands-parents et vos enfants, mais du point de vue de l'évolution, ce serait impossible de déterminer.
L'évolution se fait à l'échelle de l'individu, et ces travaux de Guillaume Lecointre qui sont présents dans la revue Espèces du numéro de décembre sont vraiment passionnants. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, et on aura le temps, j'espère, de consacrer une émission à cet oisin et à ces questions passionnantes de biologie de l'évolution. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Si vous voulez occuper votre week-end intelligemment et apprendre plein de choses, je vous rappelle que vous pouvez depuis mercredi vous procurer dans votre librairie favorite le livre L'Espace, paru aux éditions EPA, écrit par Nicolas Martin et Mathieu Lefrançois. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Alexandra Delbeau, Natacha Triou, Eve Etienne, Céline Lozen, François Malordi, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Somaya Dabèche.